Décryptualité, semaine 2. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, nous, un tout petit sommaire cette semaine.
Mais oui, les journalistes ne se penchent plus beaucoup en ce début d'année sur le libre et l'open source. Il faut croire qu'ils ont plein d'autres préoccupations.
À mon avis, leur voilà. Foi, c'est pas encore remis des fêtes.
Oui, il y a de ça.
Le monde informatique, le tout open source, quel impact pour l'entreprise? Un article de Matt Azay.
Donc ça parle d'entreprise, hein, comme le titre l'indique.
Quelle surprise.
C'est étonnant. Et le développement du libre dans les entreprises, il y a des évolutions, notamment sur les systèmes de licence. Il y a pas mal d'entreprises qui se contentaient ou qui avaient une sorte de modèle mixte. On vous fait un logiciel qui est libre, mais il y a une version avec des fonctionnalités en plus qui n'est pas libre, qui est payante, une version entreprise par exemple. Et donc là, ils poussent pour abandonner ce genre de modèle qui est trop compliqué, qui demande à bien expliciter les différences entre le payant, le libre, et qui non seulement pousse de la confusion, mais aussi il y a un côté un petit peu de trahison de l'esprit du libre. Il n'y a pas de partage, quoi, ou en tout cas pas de tout. Ça pousse dans le bon sens parce qu'effectivement, tout libre, c'est quand même plus simple.
Le monde informatique, la mauvaise qualité logicielle a coûté 2080 milliards de dollars aux États-Unis en 2020. Un article de Maryse Gros.
Je pense que c'est des milliards, hein. Oui, sûrement. C'est un M majuscule, ça doit être des milliards, mais en tout cas, c'est beaucoup d'argent. Effectivement, bah oui, il y a plein de bugs en informatique et ça coûte très cher quand ces bugs se révèlent à l'usage. Il n'y a pas que des fusées qui explosent quand il y a un bug et puis il y a le coût de la fusée. Non, il y a plein d'autres effets secondaires dans tous les sens. Ça, c'est terrible.
Alors, j'ai vérifié, c'est bien des milliards. Donc, effectivement, un bug, bah, tout le monde les connaît. Et ça fait que, bah, par exemple, des gens vont arrêter de bosser. Ou on va perdre des données, etc. Et donc, quand on met bout à bout toute cette perte de temps, ces pertes de travail, et bah, ça fait une addition très, très salée.
Ça reste une estimation, hein. Je pense que c'est compliqué de toute façon de mettre des chiffres. Mais de toute façon, ce sera toujours trop cher et ce sera toujours trop pénible. Les bugs, c'est moche, il n'en faut pas. Arrêtez les gars, on n'en fait plus. Comme moi, vous voyez, moi, informaticien que je suis.
Aucun bug.
Jamais, 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 promis.
Le monde.fr, le logiciel libre et l'ouverture des données sont des enjeux majeurs du numérique moderne qui méritent une stratégie publique. C'est une tribune signée par toute une ribambelle de gens très bien, avec trois signataires principaux qui sont Robert DiCosmo, qui est un universitaire de l'INRIA, Stéphane Fermigier, qui est un entrepreneur du logiciel libre et le coprésident du Conseil national du logiciel libre, et Cédric Thomas, qui est donc économiste et directeur général de l'organisation Open Source, OW2. Puis après, il y a des tas de co-signataires, on ne va pas tous les citer. Donc, c'est une tribune qui est super intéressante, et notamment parce qu'elle fait un récapitulatif au niveau européen de tout ce qui a pu être dit en faveur du logiciel libre et de l'ouverture en général, comme étant un moteur de développement, des méthodes qui permettent de travailler plus facilement ensemble au-delà des organisations, des frontières, etc. Et que c'est une voie qu'il faut impérativement suivre si on veut être plus efficace, relever les défis de l'avenir.
Et on part de loin, parce que le passé est très mauvais, et on a, en Europe, de très mauvais cas d'usage de l'informatique en général et de l'innovation en particulier. Je sais pas, on vient des technologies genre le Minitel, quoi. Donc l'Europe, c'est pas ça.
Et oui, c'est un truc assez impressionnant. Et on a des décennies de retard, hein, puisque s'ils écrivent cette tribune, c'est que c'est loin d'être rentré dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Et effectivement, on vient de très très loin. Et quand on compare effectivement avec les GAFAM, donc on peut penser tout le mal qu'on pense des GAFAM, mais il faut bien admettre qu'elles sont là, qu'elles ont réussi à s'imposer, à créer des services. Et pendant ce temps-là, nous en France, finalement, on était présents assez tôt avec le Minitel. C'est quand même hyper tôt par rapport à l'avènement d'Internet pour le grand public, mais avec un système qui trahit une vision des choses qui est assez redoutable et assez inadaptée.
Et clairement, ce truc-là était brillant à son époque, mais il a mal vécu le développement des technologies et on s'est rendu compte de ses limites. Très vite, ça s'est écroulé. Et je pense que ça a été le cas pour toutes les technologies.
Alors, ça ne s'est pas écroulé tant que ça, parce que le Minitel, ça a duré finalement assez longtemps. Donc, c'est arrivé dans les années 80, et jusqu'au début des années 2000, ça a continué à fonctionner et à faire de l'argent. C'était une de ses grandes forces. C'est que le modèle économique qui était intégré dedans, c'est loin de s'être écroulé et d'avoir disparu.
Oui, mais c'était des personnes derrière qui poussaient ça avec une autre façon de penser que celle qui a dominé avec Internet. C'est une façon de penser télécom, avec une qualité de service, avec une hauteur de ce qui est fourni aux usagers, et puis un contrôle très poussé. On ne vous permet pas d'avoir tout. C'est vraiment l'opérateur.
Très centralisé aussi.
Très centralisé. C'est l'opérateur qui possède l'intelligence, qui possède les mécanismes. Et vous, vous avez juste pas grand-chose, quoi, un affichage. Donc l'intelligence était centralisée. Internet s'est développé parce que l'intelligence était décentralisée, on avait accès à des postes vraiment au bout du réseau, ça a permis de bien fonctionner.
Et Minitel était aussi très statique dans sa technologie, c'est-à-dire que ce qu'on a établi dans les années 80, on se l'est gardé pendant très longtemps, ça bougeait pas bien vite, les débits n'ont pas beaucoup bougé, etc. Alors, mais on est à des années-lumière de ce qui a été possible avec Internet.
Et puis, bah, n'oublions pas, on était très contents de notre technologie, on était des champions dans ce qu'on avait fait, ouais, on est les meilleurs du monde, mais on était tout seul.
Et oui.
Donc, tout seul, quand on a raison, c'est bien gentil, mais bah, en fait, ça ne fonctionne pas.
Il faut bien rappeler que Internet, tous ces protocoles sont ouverts, ont été créés par des universitaires qui, à l'époque, dans les années 80, 70-80, quand ça s'est mis en place, réfléchissaient comme des universitaires, donc ils n'avaient même pas besoin d'avoir des licences libres à l'époque, puisque c'était logique de partager les savoirs et d'avoir des protocoles ouverts.
C'est la science, hein, voilà. C'est le principe.
Alors que le Minitel était conçu dès le début comme un machin où il fallait que le pognon tombe, et ça a marché, hein, ça a généré plein de fric. Mais c'était bien verrouillé, bien fermé, c'est à nous. Donc du coup, ça fait complètement écho à la tribune dont on parlait initialement. Puis aussi, c'était quelque chose qui était porté par des mastodons, des grosses boîtes, du lourd, quoi.
Je sais pas si tu te rappelles, Bull. Oui. Bull, c'était l'exemple même des grosses boîtes à la française qui vont bien marcher, qui vont te faire tout en un. Et puis, bah non, finalement, ils étaient pas du tout dynamiques, il y avait pas d'agilité dans leur fonctionnement. Ils contrôlaient tout. Mais bah, il fallait que l'État français injecte régulièrement.
Alors, bah, Minitel, hein, c'était les PTT, Matra, Alcatel et Radio Technique. Donc que des entreprises qui ne sont que des vieux souvenirs. Hein.
Bah, c'est des souvenirs de cette époque qui ne s'est pas arrêté, hein, des champions français. La France, l'État français, les institutions françaises ont poussé, alors je ne sais pas ce que c'est comme choix, ça doit être les années 50, on a décidé d'avoir des grands champions nationaux qu'on allait pousser sur la scène internationale, qui allaient être compétitifs, qui allaient apporter des modèles aux autres. C'est pas nos autoroutes, par exemple, tous nos fabricants d'immobilier, de béton, on les exporte à l'étranger, ce sont des champions nationaux.
Oui.
Et c'est vrai pour d'autres
systèmes. Dans d'autres technologies, on a Airbus, Arianespace, Dassault, etc.
Les TGV.
Les TGV, effectivement, avec Alstom.
On avait, il n'y a pas si longtemps, bah, les grands supermarchés qui étaient exportés à l'international.
Voilà, et on a vu récemment que bah, l'État vient de bloquer le rachat de Carrefour par une boîte canadienne.
Couche-Tard.
Oui, Couche-Tard, un peu surprenant. Mais derrière tout ce modèle-là marche extrêmement mal dans l'informatique et c'était quand même un échec complet du modèle français là-dedans, doublé d'une absence totale de vision à la fois dans les entreprises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a Orange hein, qui reste là, ex-France Télécom.
Et qui continue à recevoir de l'argent de l'État français qui est injecté sous différentes formes. Ils ont essayé de faire un cloud à la française ou européenne, hein, faut l'entendre comme on veut, où ils ont injecté des milliards avec l'emprunt Sarkozy. Et puis, ça ne servit à rien. Hein,
voilà, c'était pas tout seul, il y a eu quelques autres boîtes, mais
oui,
c'est
mais
un peu
globalement,
le principe.
C'était ça. Ouais.
Et voilà, et donc, on a toutes ces grosses boîtes hein, et qui n'arrivent pas à faire des trucs. C'est les GAFAM qui ont tout piqué et ils n'ont jamais eu de stratégie claire. Ils n'ont jamais réussi à s'imposer de façon évidente sur toutes ces parties de services ou de logiciels. Et derrière, c'est notamment parce qu'il n'y avait aucune vision stratégique de nos élites en général.
Alors, je pense qu'il n'y a pas que la vision. Il y a aussi les modèles de prise de risque. Aux États-Unis, il y a la Silicon Valley. Et la Silicon Valley, de ce que je comprends, ils acceptent de parier sur 10 entreprises et qu'il y en a une seule qui va continuer à fonctionner ou rapporter un peu d'argent. Et tant pis pour les 90% des investissements qui sont abandonnés. Ils ont compris que, bah oui, il y avait une forme de prise de risque et que la prise de risque, ça va avec l'échec. Il faut beaucoup d'échecs pour un petit peu de réussite de temps en temps. Et en Europe, bah, c'est compliqué. On a du mal à accepter ces échecs. C'est pas du tout dans la mentalité et on n'arrive pas à sortir de ces modèles-là. Pourtant, on a quelques champions hein, qui ont s'en sorti. Les téléphones portables ont été largement développés en Europe. Le web, c'est Tim Berners-Lee. Ça a été bah, développé au CERN en Europe.
Ouais, côté recherche,
vraiment,
on a plein de gens qui
voilà,
ont été
on a les armes, les puces armes qui sont utilisées beaucoup dans les téléphones portables. Il me semble que c'est anglais. Les cartes à puces, innovation à la française. Voyons qu'on a essayé d'exporter et qu'on a réussi à exporter partout. Mais on veut toujours des champions et on veut des réussites garanties. On veut pas prendre de risques, quoi.
Alors moi, j'avais un copain qui bossait dans la com, et ça remonte à loin, en 2008. Il bossait dans une grosse agence de com parisienne, hein, vraiment un truc, la crème de la crème. Et il m'avait expliqué à l'époque qu'il y avait un des directeurs de la boîte, donc un mec qui pesait lourd dans la com, voilà, qui, en 2008, dit « Alors, mais vraiment vivement que cette mode de l'Internet s'arrête, qu'on puisse refaire du business comme avant. » Donc en laissant tout le monde autour de lui complètement éberlué, en disant « Mais comment ce mec peut penser qu'en fait c'est juste une mode ?» 10 ans après, le type, il a toujours pas compris. Et je pense qu'il y en a un paquet qui sont totalement à la ramasse et qui se sont tous rués vers le logiciel propriétaire, vers les solutions où on dit « Bah, vous avez qu'à les consommer, acheter, etc. » et de devenir totalement dépendant à des offres privatrices.
Ah, mais c'est compliqué de se remettre en cause, de changer, de savoir évoluer et accepter les changements qui sont autour de nous. Je pense que on est tous plus ou moins touchés par ça, on se fige dans une pensée et dans une façon de voir le monde.
Oui, mais bon, là, ça fait plus de 20 ans quand même.
Oui, c'est un peu énervant. Alors, il y a peut-être des bonnes évolutions, on le sent. Là, avec ce qui est en train d'apparaître sur l'open data et les logiciels libres au niveau européen, mais pas que, hein, la France aussi, on est cocorico champion du monde au niveau de l'open data, en tout cas.
Champion d'Europe, en tout cas, peut-être, non ?
Bah, on est bien. Nos institutions, nos administrations acceptent de faire de l'open data.
En tout cas, on le dit, voilà.
Oui, c'est ce qu'on... Oui, on est les champions, d'après nous. Oui, c'est pas si mal, oui. Les champions nationaux. Et là, l'Europe qui se met en avant et qui propose des choses intéressantes là-dessus, c'est super novateur.
Alors, la tribune est hyper intéressante parce qu'elle liste toute une série de prises de position publiques, notamment européennes, qui vont en faveur du libre en général, en vantant les vertus qui permettent de s'affranchir des rigidités organisationnelles. Quand on fait du libre, on est beaucoup plus agile, on peut faire travailler ensemble des gens très différents.
On peut prendre des décisions sans devoir en référer à la hiérarchie, en tout cas dans une certaine mesure, parce qu'il n'y a pas le chéquier notamment à sortir, ou moins.
Effectivement, et puis après, sur la propriété du code, il n'y a pas besoin de s'étriper à l'infini pour savoir qui possède quoi. Il cite notamment en novembre 2020 la Commission européenne qui a publié une stratégie pour le logiciel libre. En décembre 2020, le Conseil européen, dans la déclaration de Berlin, appelé à promouvoir le développement, le partage et la réutilisation des normes, solutions et spécifications open source par-delà les frontières. Et en France, on a également, c'est cité, le rapport Botorel qui va dans ce sens-là. Il cite également le fait qu'en dehors de l'Europe, on en parlait la semaine dernière, le nouveau équivalent de ministre de l'informatique est un libriste, même s'il vient de Facebook.
Oui, bon, d'accord, on peut faire des trucs bien, même en étant chapeauté par un truc pas bien.
Ça prouve qu'on peut tout faire avec le libre, même de la merde.
Oui, c'est pas incompatible. Et on peut espérer, le gars a l'air d'être très open sourciste, qu'il va prendre les bonnes parties. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant. Petit détail, la commission Botorel, elle a été co-chapeautée par la directrice du Health Data Hub, c'est-à-dire le groupe qui a pris les données de santé des Français et qui l'a mis à Microsoft.
Oui.
C'est un peu énervant quand même.
Voilà. Alors, il y a des gens qui disent que, justement, à cause de ce retard qu'on a, on n'a effectivement pas les compétences ou les infrastructures nécessaires en Europe pour héberger des très gros volumes de données de façon performante.
Du big data.
Voilà, du big data, et qu'on n'aurait pas techniquement le choix, et que ce serait par défaut du service de GAFAM, parce qu'on ne sait pas faire.
Alors, ne pas avoir le choix, moi je dis que c'est un truc de lâche, et que non, dans ces cas-là, on prend un minimum de risque, et on va voir chez OVH, on va voir chez Gandhi, et on leur dit, allez les gars, on se bouge, on va vous amener peut-être pas des milliards, mais des millions, et vous allez nous développer les solutions qui nous manquent. Il y a moyen de faire quelque chose comme ça.
Sarkozy avait fait ça, t'en parlais tout à l'heure.
Oui, pour le nuage souverain, le cloud souverain, là.
Ça n'a pas marché.
Ah non, pas du tout, non.
Et de fait, pourtant, ils utilisaient du libre, mais l'idée, c'est pas juste d'utiliser du libre, mais c'est aussi, effectivement, de s'appuyer sur des réseaux d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des associations. Et la tribune en parle, le fait qu'il y a énormément d'acteurs. Et c'est là qu'on voit que c'est effectivement complémentaire. Le libre, c'est super, mais il faut également changer son état d'esprit et sortir de ce modèle des gros mastodontes nationaux où, en général, les hauts fonctionnaires ont tendance à pantoufler, donc les gens ont des intérêts là-dedans. Et ce qui veut dire que derrière, politiquement, ça a des conséquences assez importantes.
Alors, je trouve ça super intéressant que ce soit l'Europe, la communauté européenne qui s'intéresse au sujet, qui prend à bras le corps, donc le logiciel libre et l'open data. Je pense que les deux vont bien ensemble, et notamment dans une optique fédératrice. Il n'y a rien de tel que d'avoir des pays qui sont bloqués avec leur information, leur informatique qui est vraiment auto-centrée. J'imagine très bien qu'il y a des données dans des pays qui ne sortent pas de ces pays. C'est un petit peu dommage. À l'époque du Covid, il faut partager les données. Je vais souvent sur les sites qui listent un petit peu l'état des lieux des différents pays et qui est capable de les comparer. C'est super utile et je pense que ça doit être utile à la Commission européenne de pouvoir sortir de chaque silo, de chaque nation, des informations qui peuvent être réutilisées, c'est et pas que par eux.
Bon exemple de pourquoi on a besoin de partager pour être plus efficace ensemble. Sachant que dans la foulée de la maladie, on va voir, ça a déjà commencé, une crise économique, et qu'il va falloir trouver des solutions les plus efficaces possibles pour s'organiser et pour limiter la casse. Et donc là encore, ça va être un enjeu politique important, parce qu'il y a tout plein de gens qui n'aiment pas trop partager l'argent, notamment les moyens. Donc moi, cette tribune, j'ai trouvé hyper intéressante, et notamment parce qu'elle est bourrée d'arguments en faveur du logiciel libre et d'arguments intelligents.
Et qu'elle montre une vision de l'Europe qui est assez intéressante.
Effectivement, et donc en gros, il dit dans 2 ans, la France sera présidente de l'Union européenne, et il faut qu'on ait cette direction et cette vision à apporter pour faire avancer les choses. Donc moi, je recommande d'en prendre connaissance. Si vous avez trollé autour de vous et vous discutez sur ces sujets-là, il y a plein de bons arguments à prendre là-dedans.
Un bon démarrage d'année. Bon, sur ce, je te dis à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Salut tout le monde.